Radio Barc, après la pause, nous revenons sur le sujet précédent. Alors Thierry Pfister, votre regard là-dessus, ou contre-regard, puisque nous sommes dans une émission de contre-regard.
Non, c'est pour rendre un peu d'optimisme à Michel Santeau, parce que la disparition du département, c'est une vieille, vieille histoire. Quand il y a eu les lois de décentralisation en 82, Pierre Mauroy et Gaston Defferre, qui étaient deux grands notables régionaux, avaient proposé la disparition des départements. Et à l'époque, je me souviens que François Mitterrand avait dit à son Premier ministre « Monsieur le Premier ministre, entre vos départements et les régions, l'histoire tranchera et je ne suis pas certain qu'elle tranchera pour vos régions. »
Oui, bon, bah, oui. Voilà, a posteriori, une citation intéressante que nous donnons en guise de réflexion à tous nos auditeurs. Alors, Michel, tu avais envisagé après de nous faire un contre-regard sur les éoliennes audoises.
Oui, on parle beaucoup d'éoliennes, hein, de la transition énergétique, des emplois, etc. Et c'est vrai que, bon, comme le faisait remarquer dans la presse locale, le préfet du département de l'Aude, en visuel, l'Aude commence à se couvrir d'éoliennes, pour ne pas dire qu'elle ressemble, vue de haut, à un immense tapis, effectivement, de ferraille. Hein, c'est vrai que c'est un constat irréfutable. Hein, deux chiffres en attestent. L'Aude, c'est en effet 35% de la puissance régionale, mais de la grande région Occitanie.
Oui,
35%.
De la nouvelle région. Oui, ça fait beaucoup.
C'était 56% de la seule région Languedoc-Roussillon.
Il faut dire que c'est là qu'il y a le vent, quand même.
Oui, c'est un département parmi les plus vantés, sinon de France, en tout cas, du littoral méditerranéen, encore que ça reste à démontrer.
En héros et dans les PO aussi, quand même.
Des parcs, quand même, hein, il faut le dire, hein, même si je ne me suis pas fait beaucoup d'amis depuis que j'ai publié ce billet dans mon blog, notamment d'amis maires de petites communes du département. Des parcs installés, parce que c'est la vérité, il faut le dire, dans une totale anarchie, sans plan ni schéma régional pour les répartir de manière cohérente et équilibrée sur l'ensemble du territoire régional de l'ex-Languedoc-Roussillon, avec pour seule contrainte d'ailleurs une réglementation absurde qui a changé au fil du temps, avant 2012 et après 2012. Avant 2012, il fallait créer et mettre au point des zones de développement des énergies renouvelables. Ça a été mis au panier après 2012, enfin, pour une autre réglementation beaucoup moins contraignante. Enfin bref,
bon, et aujourd'hui,
le pouvoir d'initiative est quasiment donné au préfet, aux élus aujourd'hui, avec des préfets qui, dans beaucoup de cas, disent oui, parce que tout simplement, il y a moins de dotations globale de fonctionnement aux communes, les communes, avec les intercommunalités, ont moins de ressources propres, et que ça fait effectivement, ça fait remplir la bonbonnière.
Mais que des élus décident, c'est quand même pas offusquant.
Il faut savoir ce qu'on veut aussi. Enfin, je veux bien qu'il y ait des éoliennes, je ne suis pas contre le principe, mais encore faut-il que les parcs en question soient clairement répartis de manière harmonieuse sur l'ensemble du territoire, de manière à éviter de grosses concentrations de ces engins sur cette zone du territoire, au risque de les défigurer, ou dans certaines plaines d'ailleurs. Il suffit un jeune ami qui a une propriété qui domine la vallée du Lézignané, la nuit, c'est impressionnant, c'est monstrueux, en fait, de voir toutes ces éoliennes, Bon, alors, certains pourraient me dire, mais oui, il y avait des moulins avant. On m'a sorti cet argument.
Il y avait des moulins avant.
Donc, et puis
après tout, tous ces moulins, on est dans le pays de Hollande.
Oui, il y a du vent aussi. Mais non, je veux dire pas là que. Et puis, avec vous me bassinez, m'a-t-on dit, avec votre beauté des paysages, la beauté, nous sont toutes relatives. Et après tout,
c'est beau, une éolienne.
C'est beau, quoi. Moi, je veux bien. Et après, on sortira aussi qu'effectivement, il n'y a pas d'argent et qu'il faut. Alors, cet argument de l'argent des communes, quand même, m'a fait tout de suite mettre en relation ce genre d'investissement aujourd'hui prolifique, sur nos communes du département, avec des pratiques antérieures, quand même. Parce que, à y réfléchir, on se retrouve dans la même situation qu'à une époque où les éoliennes n'étaient pas à la mode, mais par contre, c'était les lotissements. Et on a vu fleurir, dans tout, pratiquement, nos villages, ou dans les entrées de ville, des lotissements, mais alors, je pèse mes mots, plutôt les qualificatifs, hideux, qui qui ont rendu nos villages, leurs caractéristiques, leurs formes, en fait, leur patrimoine, totalement d'abord invisibles, parce qu'ils sont, entourés de ces espèces de monstruosités, en fait, qu'on trouve d'ailleurs que dans cette région, hein, pas ailleurs. Hein,
mais la raison.
Au Pays Basque, dans des régions. On n'a pas ce genre de phénomène. Encore que, c'est vrai, il y a tendance à se développer de manière anarchique.
La raison était la même.
Et là, pareil, il s'agissait de faire entrer la taxe d'habitation dans les communes. Donc, on était prêt à faire n'importe quoi, quitte à enrichir les promoteurs locaux, en fait, et autres vendeurs de béton, hein, au détriment d'une certaine gestion patrimoniale et intelligente de leur village. Là, on fait pareil avec les éoliennes.
Oui, c'est l'argent.
De sorte que demain, je me demande si les élus ne vont pas suggérer aux propriétaires de vignes, qui jouent encore leur village, hein, d'arracher tout ça et tout simplement d'y implanter des panneaux solaires. Comme ça, effectivement, on fera là aussi rentrer de l'argent dans les caisses communales, de sorte qu'on pourrait imaginer un département de l'Aude entièrement tapissé d'éoliennes et de panneaux solaires, satisferaient les élus et leurs caisses, mais qui feraient de notre département le département le plus moche, effectivement, de la région, sinon du pays.
Laissons les futuristes établir quelques scénarios. Pour conclure cette deuxième partie, Michel, les sacs poubelles.
Oui,
une polémique sac poubelle.
Une polémique, oui, j'ai vu tomber dans ma boîte mail un communiqué de Nouveau-Narbonne qui s'indigne, je pèse mes mots, qui s'indigne parce qu'il s'estime victime d'un traitement discriminatoire du Grand Narbonne qui distribuerait, par l'intermédiaire des communes, en fait, membres du Grand Narbonne, des petites communes, des sacs poubelles, en fait, à leurs administrés, alors que le maire de Narbonne, lui, n'en peut mais. Alors, ce qu'il y a de drôle, en fait, c'est quand on interroge le responsable qui est en charge de ce genre de gestion, si je puis dire, des sacs poubelles, enfin, pas que des sacs poubelles, évidemment, hein, de l'environnement au sens large du terme, donc le traitement, l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, et qui me dit très, très benoîtement que c'est le résultat d'une histoire, et que c'est comme ça.
Ce ne sont pas les poubelles de l'histoire.
C'est comme ça, et que, alors j'ai dit, mais quand même, M. Malquier est tout à fait dans la vérité, là, c'est profondément injuste.
La discrimination au sac poubelle.
Alors il m'a sorti, pour peut-être dissuader M. Malquier et M. Mouly de continuer dans la polémique, que, il allait proposer tout simplement, ou de le faire, de supprimer la distribution de sacs dans les villages, ou de tout simplement d'envoyer au maire de Narbonne 70 000 sacs poubelles à charge de lui, comme les maires des petites communes, de les distribuer à chacun des ménages de Narbonne. Ce qui probablement accroîtrait le coût du service de manière considérable. Je parle pour la maire de Narbonne, pour une rentabilité en termes de communication nulle, parce qu'elle ferait la promotion du Grand Narbonne en même temps.
Voilà, il fallait peut-être, avant de lancer la polémique, envisager quelques répercussions possibles.
Exactement.
C'est un bel effet boomerang, comme ça se produit
souvent.
De temps en temps.
Mettre la tête dans le sac.
Exactement.
On marque une deuxième pause et on retrouve tout de suite après notre invité du jour, Thierry Pfister.